Alors bonjour à tous, c'est Jérémie chapitre 11 et 12 ce matin, contrat, complot et question. Bon, j'ai eu de la misère à avoir 3 C, mais au moins j'ai 3 Q. Contrat, complot et question, ici nous voyons dans les chapitres de 11 et 12 de Jérémie. Je vous invite à y tourner pour lire. Vous savez, Jérémie, c'est un humain, c'est un monsieur qui... croyant en Dieu, et il n'avait pas grand encouragement autour de lui. Dieu ne nous a pas appelés à la popularité quand on se convertit à lui. Dieu veut qu'on se tienne avec d'autres qui croient dans l'église locale. On voit que Jérémie a dû se ressourcer souvent avec Dieu, et on va le voir justement, qu'il avait besoin d'être ressourcé, qu'il avait besoin d'être encouragé. Il avait des questions parfois à Dieu, avec ce qu'il voyait, ce qui se passait, tout ça. Et Jérémie, c'était pas comme un parfait, qui n'avait rien à apprendre. Et on va voir justement cette progression dans sa vie, dans son ministère, dans son service, sa fidélité envers Dieu, dans un temps où ce que très peu l'était, très très peu. Jérémie chapitre 11, ça dit « La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Écoutez les paroles de cette alliance et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte de la fournaise de fer, en disant, écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères, de leur donner un pays où coule le lait et le miel, comme vous le voyez aujourd'hui. Et je répondis, Amen, Éternel. L'Éternel me dit, publie toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem en disant, écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique, car j'ai averti vos pères. Depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je les ai avertis tous les matins en disant, écoutez ma voix. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. Alors j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais ordonné d'observer et qu'ils n'ont point observé. L'Éternel me dit, il y a une conjuration entre les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux iniquités de leurs premiers pères qui ont refusé d'écouter mes paroles. Et ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leurs pères. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront invoquer les dieux auxquels ils offrent de l'encens, mais ils ne les sauveront pas au temps de leur malheur. Car tu as autant de dieux que de villes au Juda, et autant Jérusalem a de rues, autant vous avez dressé d'autels aux idoles, d'autels pour offrir de l'encens à Baal. Et toi, il parle de Jérémie, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication ni prière, car je ne les écouterai pas quand ils m'invoqueront à cause de leur malheur. Que ferait mon bien-aimé dans ma maison? Il s'y commet une foule de crimes. La chair sacrée disparaîtra devant toi. Quand tu fais le mal, c'est alors que tu triomphes. Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit, tel est le nom que t'avait donné l'Éternel. Au bruit d'un grand fracas, il l'embrase par le feu, et ses rameaux sont brisés. L'Éternel des armées qui t'a planté au appel sur toi le malheur à cause de la méchanceté de la maison d'Israël et de la maison de Juda, qui ont agi pour mériter en offrant de l'encens à Baal. Et là, on va s'arrêter là pour l'instant. On va poursuivre la lecture tout à l'heure. Je vais prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. C'est la vérité, la Bible, Seigneur Dieu, c'est la vérité, c'est ta parole même, Seigneur Dieu. Et tu nous dis ce que tu as dit à Jérémie à ce moment-là, de dire au peuple, de nous relayer ces paroles que tu as données à ton peuple, les paroles pour leur bonheur, mais Seigneur Dieu, les avertissements de leur malheur quand ils continuaient dans leur péché sans s'en détourner. Seigneur, aide-nous d'en apprendre aujourd'hui, Seigneur, en 2026, la nature humaine n'a pas changé. Nous suivons naturellement les penchants de notre mauvais cœur. Seigneur, dans ta grâce, c'est toi qui sauves pour transformer. Et Seigneur Dieu, pour ceux qui seraient encore esclaves de leur péché, esclaves de des penchants de leur mauvais cœur. Seigneur, on te prie que tu puisses toucher leur cœur, qu'ils puissent comprendre à quel point tout est fait. Jésus a tout accompli pour les sauver parfaitement. Par la repentance, par la tristesse du cœur, par la confiance en ton nom, la confiance en Jésus, Seigneur. On te prie donc que tu puisses toucher les cœurs. Et fortifie ceux qui sont venus à toi, ceux qui professent te connaître. Fortifie-les par ces paroles, on te supplie. Aide-moi de bien exposer droitement le sens de ta parole, Seigneur Dieu. Et que les cœurs puissent vérifier l'exactitude de ce que je dis, Seigneur, avec ta parole. On te prie au nom de Jésus. Amen. Donc un contrat, c'est l'alliance de contrat. Dieu avait les termes de l'alliance, c'était justement le bonheur en suivant justement l'alliance, en suivant les commandements. Mais le malheur s'il s'en détournait. Et le peuple avait accepté à ce moment-là de rentrer dans ce contrat avec Dieu, dans cette alliance. Ils avaient accepté les termes. La génération qui sortit d'Israël, de l'Égypte, ils ont accepté les termes et ils sont devenus le peuple de Dieu. Et Dieu donc, il fait dire à Jérémie, publie ces choses-là, rappelle et dis-leur, publie. Donc il fallait que Dieu voulait la publication de l'alliance, il voulait que ça soit connu. Autant qu'aujourd'hui, Dieu veut faire connaître sa parole, la bonne nouvelle de Jésus aujourd'hui. Dieu veut faire connaître, si nous professons le connaître, Dieu, ça nous incombe de le faire connaître, de publier. Ce n'est pas à nous les résultats, mais c'est à nous de le dire avec cœur et de publier la chose pour communiquer de la part de Dieu. Mais voilà que le peuple avait transgressé. Au verset 8 et 10, on lit à propos de la transgression. Ils ont violé. Les premiers pères sont morts dans le désert en refusant de croire en Dieu puis de rentrer, d'obéir, de rentrer dans le pays promis. La deuxième génération y est rentrée. Et après ça, des générations obéissaient, d'autres non. Et il y avait un pêle-mêle. Mais eux, cette génération de Jérémie, ils sont retournés au péché de leur premier père. Ils ont violé l'alliance. Ils ont transgressé l'alliance. Et donc, les termes s'appliquent. Le jugement est déjà annoncé dans Deutéronome. Le jugement et le châtiment que Dieu ferait sont envers son peuple. Et c'était par niveau. Ce ne serait pas tout de suite au plus dur. Il y aurait une première épisode de châtiment, et une deuxième, puis une troisième, jusqu'à ce qu'ensuite ils soient exilés et leur pays en ruine, pris par un autre pays. Et là, ils étaient rendus à ce point-là. Dieu avait appliqué les invasions à travers le temps, mais là, c'était rendu beaucoup plus que juste des invasions. Maintenant, ce serait une invasion finale des Assyriens qui viendraient prendre le pays. Qui viendraient complètement les Babyloniens, pardon, les Assyriens, c'était pour Israël du Nord, ils étaient déjà pris eux autres. Mais il restait Juda et Jérusalem, qui se croyaient un petit peu invincibles avec le temple qu'ils avaient derrière chez eux, là, au milieu de la ville. Ils avaient le temple, voyons, comment est-ce que Dieu pourrait abandonner son temple Ils se sentaient invincibles, donc ils faisaient un mélange de l'adoration de Dieu et de leurs idoles. Il y avait un beau mélange dans tout cela, comme il se fait aujourd'hui. Durant la semaine, on peut vivre comme on veut. Hein? Combien de gens qui vivent comme ils veulent, ils ne se marient même pas, ils ont des enfants, mais ensuite ils vont à l'église dimanche, et tout est beau, ils sont de Dieu. Et il y a un grand mélange qui n'est pas nouveau. Ça, c'est juste un exemple de genre de mélange. Donc Dieu a décrété ici, là, ça c'est le temps du dernier niveau, ils vont venir et ils vont vous amener de votre pays, et ils vont tout détruire, et ils vont détruire le temple. Au verset 11 et 12, on parle du jugement, et Dieu va les confier à une nation étrangère. C'est pourquoi, ainsi par l'Éternel, voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Les villes des Judas et les habitants de Jérusalem iront invoquer leur Dieu. Et leur Dieu ne les sauvera certainement pas. Leurs dieux sont incapables de faire quoi que ce soit. Le jugement est à la hauteur du degré de transgression. Il le souligne ici au verset 13, « Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda, et autant Jérusalem a de rues, autant vous avez dressé d'autels et d'idoles. » Ah, c'était multiplié leur péché, multiplié leur idolâtrie, multiplié leur perversion. Car on se rappelle que l'idolâtrie à ce moment-là, elle était rattachée à l'immoralité. C'était une excuse, il y avait souvent la fornication qui allait avec la louange, l'adoration de ces faux dieux-là, ça venait avec la perversion. Et il leur dit, c'est un jugement sans retour. Il dit, Jérémie, ne prie même pas pour eux, c'est déjà décidé. Ça ne sert à rien de prier pour ça, c'est déjà scellé. La décision est déjà scellée, ce n'est qu'une question de l'exécution de la chose, ça arrive, mais c'est déjà passer le point de non-retour. Wow. En passant, Dieu nous donne dans le Nouveau Testament le point de non-retour. Si quelqu'un peut dire aujourd'hui, tant qu'on peut dire aujourd'hui, on devrait chercher le Seigneur. Si quelqu'un entend sa voix, qu'il n'endurcisse pas son cœur, si Dieu travaille dans votre cœur pour vous faire un peu soucier de votre âme, pour vous faire même penser à la question, est-ce qu'il serait trop tard? Eh bien, non, ce n'est pas encore trop tard. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Tant qu'on peut dire aujourd'hui, je ne pourrais pas dire à quelqu'un, pour toi, dans ton cas, là, je sais, il est trop tard. Non, moi, je ne peux pas dire ça. L'autorité de la Bible, Dieu, aujourd'hui, il dit, tant qu'on peut dire aujourd'hui, et si quelqu'un entend sa voix, qu'il n'endurcisse pas son cœur, et si quelqu'un me demande, ce qu'il est trop tard, c'est que je dis, il reste un petit peu un souci dans ton cœur, tu entends un peu sa voix, alors viens à lui, repens-toi et viens à lui. Dans cette circonstance-là, Dieu a dit à Jérémie, là, pour la nation, la décision est prise, l'ennemi est en chemin, à ce point ici qu'il l'écrit dans ce chapitre. Donc, un jugement sans retour. Maintenant, verset 18, c'est là qui est intéressant. L'Éternel a eu un petit peu un changement de sujet. Il dit, l'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Là, le en, c'est un pronom et c'est intéressant parce que normalement, un pronom suit le mot qu'il remplace parce qu'on en a déjà une idée. Mais parfois, on va inverser. On donne le pronom avant de dire de quoi est-ce qu'il s'agit. Un peu pour en effet préparer, donner soif à entendre qu'est-ce que c'est, susciter la curiosité, mais l'Éternel m'en a informé. Ben, de quoi est-ce qu'il parle? M'en a informé. De quoi est-ce que l'Éternel a informé Jérémie? Et je l'ai su. Le L'apostrophe, c'est quoi ça? Ben, lisons le contexte. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit. Retranchons-le de la terre des vivants. Qu'on ne se souvienne plus de son nom. Les gens qui cherchaient la vie de Jérémie. Les gens qui disaient, on va l'enlever de la terre des vivants. un complot. Mais l'Éternel des armées, verset 20, est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance exercée contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Ce n'est pas à Jérémie de se venger. Jérémie laisserait le temps que Dieu juge ceux qui ont cherché à lui enlever la vie. Et qui cherchait à lui enlever la vie? Verset 21. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anathoth. Maintenant, je sais que vous avez déjà entendu le terme Anathoth. Si vous n'êtes pas sûr où et quand, je vous donne un indice. Allez voir dans Jérémie chapitre 1, verset 1. Jérémie 1, 1. Anathoth. Ce n'est pas un nom qui, probablement, vous est resté collé dans la mémoire. Vous l'avez probablement oublié, que vous l'avez déjà entendu. Je ne vous demanderai pas de lever la main pour dire si vous l'avez oublié ou si vous vous en rappelez. Mais Anathoth, ce n'est pas un nom qui est trop commun et qui se retient facilement. Mais regardez, Jérémie chapitre 1, verset 1, qu'est-ce que ça dit? Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anathoth. Ah! Les gens de la ville de Jérémie. Ses voisins, ses amis, lorsqu'il a grandi, se sont dit un jour, hey, on veut lui enlever la vie. Il nous fatigue avec ses messages. Il nous parle de nos péchés, il nous parle de malheur. Oh là là, il nous fatigue. Allez, cherchons à lui enlever la vie. Ça, c'est comme se faire poignarder dans le dos, par ses proches. Et c'est Dieu qui l'avait alerté. Donc c'est la ville, oh, il manque des mots ici, le jugement à la hauteur du degré de transgression. Et jugement sans retour. Mais ça ne veut pas dire un jugement final et total et il y a avoir un reste. Il y a encore un plan pour Israël et pour Juda et pour Jérusalem. Et là, le complot criminel, village natal, village natal de Jérémie. C'est là où ce que venait Jérémie, là où ce qu'il a grandi, là où ce que mon nom, pardon, voisin. Mais Dieu l'a alerté. C'est de ça qu'il parle, l'Éternel m'en a informé. C'est de leur complot, c'est de leur désir de le tuer. Il promet aussi donc un jugement, verset 21. L'Éternel, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anathoth qui en veulent à ta vie et qui disent, ne prophétise pas au nom de l'Éternel ou tu mourras de notre main. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, voici je vais les châtier. Les jeunes hommes mourront par l'épée, leurs fils et leurs filles mourront par la famine, aucun d'eux n'échappera, car je ferai venir le malheur sur les gens d'Anathoth l'année où je les châtierai. Ça nous rappelle une chose, si nous aimons le Seigneur, le monde va nous haïr. Mais nous ne sommes pas plus dans le danger dans le monde qu'ailleurs. Dieu est au contrôle. Dieu gardait en vie Jérémie pour le temps qu'il voulait. Dieu le protégeait et Dieu allait juger ceux qui allaient faire un attentat à sa vie. C'était la vie de Jérémie était dans la main de Dieu. Vous vous rappelez, on a lu un peu plus tôt dans les chapitres de Jérémie qu'il avait un autre prophète qui a eu peur pour sa vie, qui est allé se réfugier en Égypte. Et on est allé le trouver en Égypte pour le mettre à mort. Vous savez, si on craint pour notre propre vie, au lieu de se confier dans la protection de Dieu et dans sa volonté ne veut pas dire nécessairement qu'il va nous garder vivants jusqu'à 99 ans, 100 ans, pour avoir une belle vieillesse, on va mourir dans notre vie, tranquille, sans ennemis qui nous atteint. Non, c'est pas ça. Mais on est dans sa protection autant longtemps qu'il a des jours pour nous ici-bas sur Terre et quelque chose à faire ici-bas sur Terre. Et notre meilleure protection, ce n'est pas de ne pas avoir d'ennemis autour,
c'est dans la volonté de Dieu, où est-ce qu'on est, là où est-ce qu'il veut qu'on soit, et on dit ce qu'il veut qu'on dise, peu importe qui est autour de nous, on est là où est-ce que Dieu veut qu'on soit, et c'est dans sa protection dans laquelle on se confie. Et Jérémie nous rappelle ici que Dieu avait un but pour sa vie, et Dieu avait un plan pour sa vie, et Dieu n'allait pas laisser certaines personnes couper court sa vie, sans que ce soit Dieu dans son plan pour lui. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Dieu a maintenu en vie tout le monde qui le suivait? Non. Hébreux 11, il en a laissé être scié en deux. Il en a laissé être lapidé pour montrer que quand on croit en Dieu, ça vaut la peine de le servir, qu'on meure jeune, qu'on meure prématurément ou qu'on soit sauvé de toute tentative contre notre vie. Dieu vaut la peine qu'on le serve, qu'il choisisse pour notre part de payer un coût ou d'être protégé miraculeusement pour que Dieu montre sa puissance. Dieu sait ce qu'il fait pour chacun de nous. Il a un but particulier pour chacun de nous. Mais tout ça pour dire, on est sécure dans la main de Dieu pour le temps que Dieu veut qu'on ait sur cette terre. Et si c'est sa décision qu'il veut qu'on ait un court passage sur cette terre, parce qu'il a un but, que dans notre mort, ça soit dans un certain contexte de témoignage, comme ont eu les martyrs, et qu'il y en a encore des martyrs encore aujourd'hui, des gens qui meurent pour leur foi et qui ne vont pas dire le couteau à la gorge ne va pas me changer dans ce que je crois et dans ce que je dis. Jésus est mon sauveur et je suis content de m'être converti à lui et vous devez vous convertir aussi. Et si vous ne l'aimez pas, puis vous me tranchez la gorge, ben, si soit-il, mais je ne changerai pas ni ce que je crois, ni ce que je dis. Alors on apprend des leçons ici à travers ce complot criminel du village natal de Jérémie. Mais ensuite, on retrouve maintenant une question. Une question de la part de Jérémie. Chapitre 12. Là, c'est Jérémie qui parle. Il dit, « Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. » Donc, il dit, ma question, mets-le dans le contexte. Dieu, tu es un Dieu juste. C'est juste une question, il y a quelque chose que j'aimerais apprendre. Donc, il y va positivement. Il n'est pas du tout en train de insinuer qu'il y a de l'injustice en Dieu, puis que Dieu a lui un décompte à lui donner, puis que Dieu doit se prouver. Non, c'est positivement au sens que Dieu, je sais que tu es juste, mais il y a une chose que je ne comprends pas, et je te demande de m'aider à comprendre. Donc, il y va d'une façon enseignante, il y va d'une façon qui présume, bien sûr, de la justice totale et parfaite de Dieu. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Il dit, je me gratte la tête, là, sur tes jugements. La question est celle-ci, et la question, elle est en œuvre. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Les perfides, c'est les gens sans intégrité, qui trompent, qui trichent, qui profitent. Tu les as plantés, ils ont pris racine. Il est convaincu de la souveraineté de Dieu. Dieu, il mange par les choses que tu leur permets de manger. Ils s'établissent, ils s'achètent des maisons par des sous que tu as permis qu'ils aient. Alors aide-moi à comprendre, parce que je ne comprends pas. Je sais que tu es juste, et je sais que tu as une explication, mais j'aimerais la connaître. Ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Ah! C'est des perfides et c'est des méchants qui sont religieux. Ils disent peut-être dans leur lingo, dans leur langage, si Dieu le veut, on va faire quelque chose. Et, ah oui, j'ai eu une semaine par la grâce de Dieu. Puis, tout leur langage était beau. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Ils allaient peut-être faire leur petit tour au temple. Ils avaient, ah, par l'Éternel, par le nom de l'Éternel, je vais faire telle chose. Peut-être qu'il... Hein, tout le lingo. Mais c'était de prendre des voies détournées, suivre les penchants de leur mauvais cœur, et ils s'en tiraient très bien. Et là, Jérémie, il se pose cette question-là. Ça, c'est important. On voit ici le désir de Jérémie pour la cause de la justice de Dieu, de voir la méchanceté punie, et plus vite que ça, merci. Dans ce sens-là, regardez ce qu'il dit. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur qui est avec toi, enlève. Autrement dit, Dieu, moi, tu sais que je ne sais pas, je n'ai pas juste des paroles ici, puis mon cœur est ailleurs, avec toute sincérité que je marche avec toi et que je crois en toi et que je t'adresse mes prières et que je vais apprendre de toi, etc. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. Jérémie a soif de voir la justice de Dieu faite. Donc ça le dérange de voir que ces méchants-là, ils continuent de jour en jour à jouir de leur péché, puis sans conséquence, et ça le met un peu à l'envers. Dit, jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil? Et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent. Car ils disent, il ne verra pas notre fin. Et là ensuite, verset 5, on va attendre avant de lire, parce qu'on veut parler du verset 4. Là, on ne l'a pas vu à travers les chapitres déjà qu'on a vu dans Jérémie, que Dieu a envoyé des châtiments à travers le peuple, des temps de famine, des temps de difficulté, des temps d'invasion, etc. Le peuple a vécu des mauvais quarts d'heure. Là, comment est-ce que Jérémie pose la question, pourquoi est-ce que les méchants prospèrent? C'est que justement, ils ont peut-être réussi le mieux à travers ces temps de difficulté. Les temps de famine, oui, ça rendait un peu la vie difficile à tout le monde. Mais ceux qui étaient méchants ont profité par leur méchanceté de s'en tirer un peu mieux que ceux qui ne cherchaient pas à abuser, profiter, etc. Donc même à travers les temps difficiles, les méchants s'en tiraient mieux puis prospéraient, entre guillemets. Donc l'un ne va pas sans l'autre, l'un ne contredit pas l'autre. Le fait que Dieu avait permis qu'il y avait des difficultés, des temps de maladie ou des temps de sécheresse, tout ça, et en même temps que les méchants semblent prospérer dans leur méchanceté et s'en tirer bien. Alors voici ce que Dieu répond. Dieu répond, verset 5, « Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux ?» Et ça, c'est tellement intéressant la manière que Dieu dit ça. Les piétons, ils marchent. Si ça te fatigue, simplement essayer de rester au niveau de ceux qui sont piétons, imagine-toi essayer de rester au niveau des chevaux qui courent. Oh, Jérémie, ta question là, tu penses que tu as de la misère avec ça hein? À ce niveau-là, hey, ça va être pire dans le futur. T'as de la misère maintenant? Oh là, Jérémie, ça va être encore pire dans le futur. Jérémie, tu es impatient, tu veux que le jugement soit tout de suite clair et net. Telle personne fait une méchanceté, telle triche dans ses taxes, telle personne a volé de son voisin, et tout de suite, là, que ce soit évident que c'est le point de mener à la ruine. Jérémie, et tu trouves ça dur maintenant? Ah, ma patience, tu vas voir qu'elle va être encore longue. Et les difficultés vont être encore plus grandes. Il donne une autre illustration. Et si tu ne te crois en sécurité que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses des Jourdains? Une fois par année, le Jourdain, il débordait. Et là, c'était très dur hein, dans la région, quand il déborde, un peu comme quand on lit à propos de Camopi, quand en mai d'habitude, quand il pleut très très fort, l'eau déborde, etc. Mais pas juste à Camopi, mais je me rappelle un peu plus à travers les années de Camopi, mais là, le Jourdain, il dépassait ses bords, puis là, c'était dur. Et il dit, Jérémie, là, t'as de la misère, tu ne crois pas tellement en sécurité dans un temps paisible. Ah, le pire s'en vient, là. Ok, Dieu le reprend. Dieu reprend l'impatience de Jérémie. Si Jérémie, t'as encore rien vu. Si tu penses que les méchants prospèrent, oui, ils vont continuer à prospérer un temps. Et le jugement ne va pas se finir si vite. Ce ne sera pas automatiquement pour chaque cas que Dieu va juger. Quand le jugement va venir, ça va être terrible. On va le voir. Mais Jérémie, ne t'attends pas à ce que Dieu commence à maintenant micro-manager les choses, là, puis, ah, toi, tu as fait, oh, tiens. Puis, Jérémie, prends un recul, et apprends ma patience encore plus. Cette question-là, pourquoi les méchants prospèrent, hein, on la retrouve dans les psaumes aussi. Psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël. Pour ceux qui ont le cœur pur, toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes, etc. Et la difficulté, verset 16, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber sur les mains en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. La prospérité des méchants, elle n'est qu'apparente et elle n'est aussi que temporaire. Et Dieu rappelle à Jérémie, le temporaire est quand même significatif. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit évident nécessairement quand on voit la vie de quelqu'un, que là, ça ne vaut pas la peine de poursuivre le péché. Non, on peut regarder la vie de quelqu'un et puis dire, ah, ben, il a l'air de s'en tirer. Bien. Il vit à une maison sur la plage, une maison super riche, super confortable, avec une belle piscine, puis tout ça, et ça sent bien marcher son affaire. Non, ça ne vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Même si ça dure des années de temps, ça finit par le rattraper. Ça finira le rattraper à sa mort, ça c'est certain. Le jugement dernier. Alors la prospérité des méchants, Dieu répond, ça ne fera que s'empirer. La prospérité des méchants, ça, même face à tant d'avertissements de Dieu, car on se rappelle, hein, Jérémie chapitre 1 jusqu'à maintenant, combien de fois est-ce qu'on a vu que Dieu a averti par Jérémie, attention le jugement s'en vient. Mais mettons-nous dans le contexte, pendant que Jérémie a averti de la part de Dieu, le jugement s'en vient, les gens, ils faisaient leur petite vie tranquille, hein, ils allaient au marché, ils achetaient leurs choses, ils allaient au temple, ils allaient à leur idole, ils allaient voir leur voisin, ils avaient leur pique-nique, ils avaient leur travail, ils avaient leur petite vie, il y en a qui disaient, ah, moi je vais en profiter, c'est bien, j'ai profité parce que j'ai emprunté tel de l'argent, je ne l'ai jamais rendu, quand allez-vous me voir, moi j'ai déménagé, vous ne me trouvez pas, je m'en suis bien tiré avec 50 000 de plus qu'avant, et là ensuite j'ai réussi à faire tel jeu. Vous savez, Georges Müller, il parle dans ses premiers chapitres, c'est ce qu'il faisait. Il dit, ah, ça marchait. Mais, gloire à Dieu, il est revenu en lui-même pour dire, qu'est-ce que c'est ? Puis il a la crainte de Dieu, il dit, wow, puis c'est repenti. Mais Et les gens semblent s'en tirer, à profiter. Mais tout ça, ça se passait durant le temps de Jérémie. Le soleil se levait, la pluie venait, la vie continuait. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Il dit, c'est-à-dire, bon, nous lisons Jérémie à propos du jugement qui s'en vient, puis nous rappeler que le jugement s'en vient. Mais la société tourne pareil, ça semble pas vraiment être... Ben, c'est la même chose que durant le temps de Jérémie. Et ça semble que chacun puisse suivre les penchants de son propre, de leur mauvais cœur et bien s'en tirer avec ça. Ils en profitent, ils aiment ce qu'ils aiment. Même si ça leur donne un gros mal de tête après, ou c'est la conscience troublée, ils l'éteignent et ils continuent. Et ils se donnent plaisir. Les plaisirs du péché, ce n'est pas un plaisir plénière, mais ce sont quand même plénier, mais ce sont quand même des plaisirs. Et Dieu dit, rappelez-vous là, la prospérité des méchants, ça rappelle... La très grande patience de Dieu. Dieu est patient. Mais qu'est-ce qui se passe durant ce temps de patience? Le trésor de colère s'accumule. Il y a un barrage qui se fait. Les gens profitent. Et Dieu a sa colère envers toute l'humanité. Dieu n'en oublie aucun. Juste parce qu'il patiente longtemps, Dieu n'a pas oublié tel événement, telle parole, telle pensée, telle perversion, tel profitage, tel orgueil. Et ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Dieu ne désire pas que ça laisse tomber. Dieu a fait que toute cette colère tombe sur Jésus. Mais pour ceux qui refusent de croire en Jésus, cette colère est accumulée, est accumulée, est accumulée. Et ceux qui refusent de croire en Jésus, cette colère, à un moment donné, quand le barrage éclate, la colère était incroyable. Et Dieu, il patiente longtemps parce qu'il ne désire pas qu'aucun périsse. Et la plupart des gens prennent ce temps de patience de Dieu pour continuer à profiter et abuser de sa patience et continuer à faire le mal. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, non seulement ça montre la grande patience de Dieu, mais ça montre aussi la grande méchanceté de l'homme. La grande méchanceté de l'homme et de son incrédulité. À profiter de sa patience de Dieu, au lieu de le prendre pour une raison de se tourner à lui, ils le prennent pour une raison pour continuer dans leur péché et leur incrédulité. Et Dieu fait simplement par sa patience montrer à quel point est grave le cœur humain. À quel point est noir le cœur humain, dans tous les cas où ce que c'est le cas. Et je sais que c'était le cas dans mon cœur, et Dieu a eu pitié de moi pour m'avoir sauvé. Quand on se convertit à lui, ce n'est pas qu'on dit, « Ah, moi, je n'avais pas un tel cœur. » Non, on dit, « Dieu a eu pitié de moi parce que j'étais aveugle et je suivais, et j'étais dans la perdition, et je suivais moi aussi les penchants de mon mauvais cœur. » Et Dieu a eu pitié de moi pour me sauver par une si grande patience. Mais ensuite, regardez le reste, on va lire, on revient dans Jérémie chapitre 11, à 12. Et ensuite, après avoir répondu à Jérémie, il dit, verset 6, ah non, verset 6, il répond encore, « Que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain, car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent, ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi, ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. » Là, il lui rappelle, hein, les choses vont s'empirer encore plus. Et là, verset 7, là, il déclare, « Quand le jugement va tomber, ça va tomber. J'ai abandonné ma maison, j'ai délaissé mon héritage, j'ai livré l'objet de mon amour aux mains de ses ennemis. » Mon héritage a été pour moi comme un lion dans la forêt. Il a poussé contre moi ses rugissements. C'est pourquoi je l'ai pris en haine. Mon héritage, c'est Jérusalem, c'est Juda, c'est Israël. Mon héritage a été pour moi un oiseau de proie, une hyène. Aussi les oiseaux de proie viendront de tous les côtés contre lui. Allez rassembler tous les animaux des champs. Faites-les venir pour qu'ils le dévorent. L'oiseau de proie qu'il était, c'était un oiseau de proie qui était tacheté, qui était différent de tous les autres oiseaux de proie, et c'est pour ça que tous les autres proies l'ont pris comme cible. Verset 10, « Des bergers nombreux ravagent ma vigne, ils foulent mon champ, ils réduisent le champ de mes délices et en un désert, en une solitude, ils le réduisent en un désert. Il est en deuil, il est désolé devant moi. Tous les pays est ravagé, car nul n'y prend garde. » Sur tous les lieux élevés du désert arrivent les dévastateurs, car le glaive de l'Éternel dévore le pays d'un bout à l'autre. Il n'y a de paix pour aucun homme. Ils ont semé du froment et moissonnent des épines, et ils se sont fatigués sans profit, et honte de ce que vous récoltez par suite de la colère ardente de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel sur tous mes méchants voisins. Là, d'abord, verset 13, d'abord, commenter une chose. Quand Dieu va juger en fin de compte, à la fin de sa patience, ah, ça allait être immanquable. On n'est pas surpris de la désolation totale de Jérusalem. Le temple totalement détruit, les murs totalement détruits, les maisons brûlées. C'est les morts à travers toutes les rues. Et les esclaves, ils étaient ceux qui étaient contents. Parce qu'ils ont été épargnés, ceux qui sont partis au Babylone. C'est tellement, tellement terrible. Mais Dieu a un but aussi à long terme. Non seulement le jugement sévère contre son peuple, d'abord, il manque un mot, ici Dieu assure que sa justice sera le dernier mot. Dit Jérémie, oui, je suis patient, et oui, tu as besoin toi aussi d'être plus patient, mais Ne t'en fais pas. Tu as commencé à dire à propos de ma justice, oui, t'en fais pas. Ma justice va avoir le dernier mot. Je veux justifier le coupable. J'ai un plan par Jésus. Mais pour ceux qui refusent ma justice, ben, ma justice va faire justice d'eux. Et va juger l'incrédulité et la méchanceté et tout ce qui se fait dans ce contexte-là. Alors Dieu assure que sa justice aura le dernier mot. Alors c'est un jugement sévère contre son peuple. C'est vrai, c'est peu dire. Mais ce n'est pas un jugement final et total et éternel. Il y a un retour de son peuple. Mais il avertit. Il avertit le jugement final pour les nations qui ne viennent pas à lui. Verset 14, il dit « Ainsi que par l'Éternel à surtout mes méchants voisins qui attaquent l'héritage que j'ai donné à mon peuple d'Israël. Voici, je les arracherai de leur pays et j'arracherai la maison de Juda du milieu d'eux. Mais après que je les aurai arrachés, j'aurai de nouveau compassion d'eux et je les ramènerai chacun dans son héritage, chacun dans son pays. Et s'ils apprennent les voies de mon peuple, s'ils jurent par mon nom en disant l'Éternel est vivant, comme ils ont enseigné à mon peuple à jurer par Baal, alors ils jouiront du bonheur au milieu de mon peuple. Dieu a un plan aussi pour les autres nations que Israël. » Oui, le plan de Dieu centre sur Israël, mais il inclut tout le monde. Et les nations aussi sont incluses. Mais il avertit au verset 17, « Mais s'ils n'écoutent rien, je détruirai une telle nation, je la détruirai, je la ferai périr, dit l'Éternel. » Ça nous rappelle, au niveau individuel, c'est la même chose. Dieu désire faire grâce, et ceux d'entre nous qui acceptons donc d'apprendre et de dire, « Ok Dieu, oui, je viens à toi pour être sauvé par Jésus que tu as envoyé depuis après Jérémie. » Eh bien, il a un bon plan. Il a un retour, il a une restauration. Mais si on n'écoute pas, verset 17, s'il n'écoute rien, si on n'écoute pas, ben on sera détruit. Dieu va détruire éternellement et avec une souffrance éternelle. Or, si vous ne connaissez pas encore Jésus comme votre sauveur, personnellement, la manière que Dieu dit de se convertir, pas à peu près comme beaucoup d'églises, là, ça c'est des à peu près qui ne marchent pas. Il y a un faux évangile très populaire tout autour de toutes les formes. Hein. La fausse monnaie, hein, ça ne vient pas juste en une seule forme. La vraie monnaie, mais il y a les fausses monnaies de toutes les sortes. Il y a toutes sortes d'églises avec toutes sortes d'emphases différentes, mais qui sont à côté du vrai évangile. Ça donne du à peu près, ça ne donne vraiment pas un salut réel et certain. Mais si vous n'avez pas encore le salut certain, venez à Jésus aujourd'hui. Et pour ceux d'entre nous qui avons professé, ben, apprenons et patientons et continuons à être fidèles, continuons à publier, continuons à savoir que, ok, les méchants vont continuer à prospérer pour un temps. On ne va pas les envier. Avec amour, on va les convier à se repentir et à croire, les avertir du jugement. On a soif de voir qu'un jour Dieu va juger en temps et lieu, qu'il ne va pas tolérer à jamais le mal, mais on va apprendre à patienter encore plus comme Dieu voulait que Jérémie patiente plus. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce qu'il veut nous dire ce matin avec sa parole de Jérémie chapitre 11 et 12? Ben, qu'on puisse être sensible et qu'on puisse le laisser toucher notre cœur selon le besoin de chacun de nous, que ce soit venir à Jésus vraiment ou grandir en lui. On va prier. Seigneur Dieu, touche les cœurs. Moi, je ne connais pas les cœurs du tout. Seigneur Dieu, toi, tu connais chacun des cœurs, là où ils sont rendus. Et merci pour ta parole. Ta parole est pour chacun de nous, pour moi et pour chacun. Et à faire connaître aussi à ceux qui ne sont même pas là, de le partager à d'autres, on te prie. Touche les cœurs, Seigneur, seulement par ton esprit, Seigneur, que les choses vont se faire. On te supplie que tu puisses convaincre ceux qui ont besoin, Seigneur Dieu, de la conviction de leur péché, puis de la justice disponible en Jésus-Christ, que tu puisses vraiment leur peser lourd sur leur cœur. Ceux qui ont besoin d'être vivifiés, d'être renouvelés, qu'on puisse grandir en toi, que tu puisses travailler dans chacun de nos cœurs. On te prie. On te supplie qu'il y ait du fruit de ta parole, parce que ta parole, tu ne la donnes pas sans qu'il y ait un effet. Et on te demande que cet effet-là soit à ta gloire et pour des fruits éternels. On te supplie au nom de Jésus.